Bonsoir. Dans une conférence de presse tenue la semaine dernière à Kinshasa, le chef de la MONUSCO a fait savoir que pour les Nations Unies, seul un dialogue inclusif et crédible entre les parties prenantes congolaises permettrait de désamorcer les tensions actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence. Selon Maman Sidikou, le souci des Nations Unies est de tout faire pour aider à dépasser les blocages et aller vers l'organisation d'élections transparentes, crédibles et paisibles dans le cadre de la constitution congolaise. Cependant, il souligne que compte tenu des retards éventuels et selon toute vraisemblance, les élections ne pourront se tenir en novembre 2016. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 18 juillet 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Jolino Makelele, député provincial et porte-parole de l'UNC, parti membre de la dynamique de l'opposition. Monsieur Jolino Makelele, bonsoir.
Bonsoir, madame Makelele, merci pour l'invitation.
Étienne Vivien Kalongi, politologue et analyste indépendant, il est chercheur en résolution pacifique des conflits. Monsieur Vivien Kalongi, bonsoir.
Bonsoir, madame Kevin Koutele.
Et monsieur André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapu.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Le dialogue est incontournable pour éviter les risques de rechute dans une instabilité politique et le recours à la violence en RDC a déclaré jeudi 14 juillet dernier le chef de la MONUSCO au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Par la même occasion, Maman Sidikou a encouragé les leaders des diverses plateformes et partis d'opposition à faire preuve de responsabilité dans l'exercice des droits et libertés de manière à ne pas attiser les tensions qui pourraient plonger le pays dans une violence aux conséquences désastreuses. On l'écoute au micro d'Honoré Missenga.
Pour les Nations Unies, seul un dialogue inclusif et crédible entre les parties prenantes congolaises permettrait de désamorcer les tensions actuelles et surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence. C'est d'ailleurs dans cette optique que les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et l'OIF ont publié un communiqué en juin annonçant la mise en place d'un groupe de soutien à la facilitation du Premier ministre Kodjo. Mon souci, voire le souci des Nations Unies, et de tout faire pour aider à dépasser les blocages et aller vers l'organisation d'élections transparentes, crédibles et paisibles dans le cadre de la Constitution congolaise. C'est pour cette raison que je voudrais saisir cette occasion pour réitérer les appels incessants de la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie, invitant les acteurs congolais à travailler avec M. Edem Kodjo pour débloquer l'impasse autour du processus électoral. Le facilitateur, faut-il le rappeler, agit dans le cadre des instruments pertinents de l'Union africaine et de la résolution 2217 du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de permettre, encore une fois, la tenue d'un dialogue inclusif et crédible qui, pour l'heure, reste la seule voie à même de permettre de dégager un consensus politique autour des retards éventuels dans l'organisation des élections qui, selon toute vraisemblance, ne pourront pas se tenir en novembre cette année. Dans le contexte actuel, toute action, toute initiative ou même toute perception d'atteinte aux droits constitutionnels des Congolais ne feront qu'alimenter davantage les tensions. C'est la raison pour laquelle je ne cesse d'encourager les autorités congolaises de prendre des mesures pour décrisper la situation. Dans le même ordre d'idée, j'ai toujours encouragé, et même hier, les leaders de diverses plateformes, les divers partis d'opposition, à faire preuve de responsabilité dans l'exercice des droits et libertés de manière à ne pas attiser les tensions qui pourraient plonger le pays dans une violence aux conséquences désastreuses.
C'était la Maman Sidikou, chef de la MONUSCO, André Alain Atundu. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. Quelle lecture vous faites de cette déclaration du patron de la MONUSCO?
Bonsoir madame. La teneur du message du patron de la MONUSCO, eh bien, le sens du message que le président de la République ne cesse d'envoyer vers la partie qui ne veut pas, la partie radicalisée de notre opposition, qui ne veut pas participer au dialogue. Aujourd'hui, le propos de M. Maman a l'avantage de dire clairement à tous que l'initiative du chef de l'État est dans la logique de la résolution 2277 et auparavant de tous les instruments internationaux pertinents que nous avons signés. J'espère que cette voie de la raison, alliée à l'appel de cœur de nos populations, vont déterminer les récalcitrants, les derniers récalcitrants et résistants à aller à la table de négociation qui, comme l'a dit M. Maman, c'est une voie, c'est la seule voie aujourd'hui pour nous permettre de régler la question électorale, la question du processus électoral et éviter à nos populations les affres d'une guerre due à un malentendu ou à certaines ambitions inassouvies.
Alors, les Nations Unies insistent sur un dialogue inclusif et crédible entre les parties prenantes congolaises. On sait qu'il y a une partie de la classe politique congolaise qui continue à s'insurger contre ce dialogue. Monsieur Atundu, vous pensez que c'est là, ils vont, avec ce message, cet appel du patron de la MONUSCO, ils vont accepter de venir à ce dialogue?
J'ose l'espérer, parce que dès le départ, l'ordonnance du chef de l'État parle d'un dialogue inclusif. Et en l'occurrence, le président de la République a fait montre d'une telle patience que raisonnablement, on ne peut pas penser aujourd'hui qu'il a un parti pris, qu'il veut écarter une partie de l'opposition. J'espère que l'opposition saura faire montre non seulement de bonne foi, mais d'engagement dans la voie démocratique qui doit normaliser le fonctionnement de notre système électoral et démocratique.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Namur en Belgique. Il s'appelle Timothée Soutia. Il dit ceci: le dialogue est une vertu en soi, mais il convient, face à une impasse de cette nature, d'établir les responsabilités. La majorité au pouvoir a méthodiquement fait en sorte qu'on en arrive là.
Aujourd'hui, les responsabilités du blocage vers le processus de dialogue, eh bien, c'est incontestablement l'opposition radicalisée qui ne veut pas entendre raison malgré toute l'argumentation et la pression des événements objectivement sur les acteurs. Alors, et donc la majorité présidentielle n'a jamais renié la nécessité du dialogue, n'a jamais mis des obstacles au processus de dialogue. La majorité présidentielle, je le rappelle, a pris l'engagement d'accompagner le président dans sa démarche politique de dialogue en vue de normaliser le processus électoral et la vie de notre démocratie.
Est-ce que pour organiser les élections, on a besoin d'un dialogue, M. Atundu?
Le dialogue est un mécanisme de régulation de vie nationale. On a besoin d'un dialogue pour tout et on n'a pas toujours besoin d'un dialogue pour tout. Donc c'est une option. Le président de la République l'a levé en tant que garant des institutions et comme les événements dans la suite lui ont donné raison, pour preuve, le communiqué des quatre organisations internationales, les propos que vous venez de nous faire entendre, on ne peut plus explicite de M. Maman.
Alors, il y a Franck qui nous écrit de Lubumbashi qui dit ceci: et parce que les élections deviennent quasi impossibles cette année, la classe politique peut dialoguer pour une transition sans le chef de l'État en satisfaisant au préalable de l'opposition contenue dans le dernier communiqué du président du Conseil des Sages, Étienne Tshisekedi.
Il ne faut pas se tromper de sujet. Le dialogue a été convoqué par le chef de l'État pour débattre de la problématique du processus électoral en vue de lever les options pour un processus consensuel, c'est-à-dire calendrier, date, modalité, etc. Et donc aujourd'hui, ce dialogue, la majorité l'a dit, le président de la République l'a dit, ce dialogue n'a pas pour sujet le sort du président Kabila. Ce dialogue a pour sujet le sort du fonctionnement normal de notre démocratie.
Merci Monsieur Latundu. Jolino Makelele, député provincial et porte-parole de l'UNC, parti membre de la dynamique de l'opposition. Comment vous analysez cette déclaration de Mamane Sidikou?
D'abord, je dois me féliciter à l'opposé de M. Atundu, donc pas pour les mêmes raisons. M. Atundu nous dit que la position de la MONUSCO, évoquée par le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Sidikou, c'est d'après lui une position qui est la même que celle du président de la République. Ça ferait sourire tous les Congolais. Parce que la position de monsieur de la communauté internationale, faut-il le dire, est claire, puisqu'on demande du dialogue en vue de permettre la tenue d'un dialogue inclusif et crédible qui aurait pour objectif, naturellement, d'organiser un processus apaisé, mais dans le respect de la Constitution et des délais constitutionnels. Ça, c'est clairement dit. Alors, maintenant, tout ce qui, autour du président de la République, se gargarise en disant que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Rappelons quand même que l'ordonnance du président de la République visait à convoquer ce dialogue en vue de débattre de quoi ? Un, de l'enrôlement des jeunes, deux, du calendrier électoral, trois, du processus électoral. Du processus électoral. Et toute matière qui ne sont pas de la compétence d'un dialogue ou d'un quelconque cénacle, mais qui, en vertu de l'article 211, je crois, de la Constitution et des articles 9 à 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, sont conférés à la CENI seule. Donc, on peut déjà dire ici que ces propos de monsieur, comment il s'appelle,
Sidikou Mamane,
sont à l'opposé. Et le contenu de la résolution 2277, c'est à l'opposé de ce que veut la majorité présidentielle. Puisqu'il c'est clair, on dit, en vue d'organiser le dialogue, les élections, mais en respectant la Constitution et les délais constitutionnels.
Entre-temps, Mamane Sidikou dit, il souligne que compte tenu des retards éventuels dans l'organisation des élections, qui selon toute vraisemblance, c'est difficile d'organiser les élections cette année.
Il dit qui selon toute vraisemblance ne pourront se tenir cette année. Ça c'est sa vraisemblance à lui. Et nous pensons que ces élections peuvent encore être organisées, et c'est pas pour rien que par ailleurs ils s'adjoignent des experts, notamment ceux chargés des processus des problèmes électoraux, tout simplement pour que, en travaillant avec la CENI, ils puissent voir dans quelle mesure tenir ces délais, puisque je dois dire ici ça risque d'être contradictoire pour la communauté internationale, de dire à la fois qu'on doit faire ce dialogue en respectant la Constitution et les délais constitutionnels, en même temps, se projeter au-delà des délais constitutionnels. Mais pour revenir un peu à ce que dit M. Atundu, il dit que tout ça est conforme, le dialogue est conforme aux initiatives mille fois prises par le président de la République. Mais je dois rappeler quand même que lorsque l'opposition, en tout cas nous de l'UNC, lorsque nous avons été à Addis Abeba pour réclamer les dialogues, lorsque nous avons fait obstacle à l'ordonnance présidentielle convoquant le dialogue qui s'est transformé en réalité en concertation nationale, et lorsque nous avons refusé le dialogue à cette époque, le président Kabila avait refusé les vrais dialogues, et c'est pas pour rien qu'on s'est appelé d'ailleurs convention pour la coalition pour le vrai dialogue, il a refusé. Et après, c'est une année plus tard que vraiment de manière malheureuse, si j'ose dire, on ose convoquer encore un dialogue. Donc c'est la preuve de l'échec de ce processus, et nous disons, nous avons fait, mon président a fait plusieurs plans de sortie de crise, il a tendu la main pour qu'on reste dans les cadres des instruments juridiques internationaux, notamment l'accord cadre d'Addis Abeba la résolution 2098 déjà, qui était encore moins corsée que la résolution 2277, mais on ne nous avait pas entendu, on a fait les concertation. Alors, mais pour ce qui est de la responsabilité...
Les Nations Unies vous appellent, appellent la classe politique à pouvoir aller, aller à ce dialogue. Est-ce que vous allez rester catégorique?
Non, madame, nous, c'est la difficulté. L'UNC, et pas seulement l'UNC, l'UNC, et à travers l'UNC, il y a, par le biais de l'UNC aussi, la dynamique de l'opposition, nous avons dit oui. Et c'est clair pour la population, oui, pour aller au dialogue. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le même dialogue qu'a convoqué le président de la République. C'est un autre format. Ça correspond plus ou moins pour le petit peuple, qui peut nous avoir des difficultés à nous entendre, au dialogue tel que suggéré dans la résolution 2098 qui chargeait à l'époque le représentant au point 14B, le représentant du conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'époque, M. Kobler, de promouvoir ce dialogue-là. Mais vous savez quel sort lui avait été réservé. On l'a rabroué, on lui a parlé souveraineté. Alors nous constatons qu'aujourd'hui, cette résolution 2277, nous de l'UNC, en tout cas de la dynamique, elle est conforme à ce que nous avions toujours souhaité, c'est-à-dire un dialogue initié et parrainé, si j'ose dire, parrainé pour des raisons seulement de garantie, de bonne fin, par la communauté internationale. Et
merci.
Que donc, nous sommes, mais pour le reste et pour les obstacles, on nous a dit pour quelles raisons, j'y reviendrai peut-être là-dessus.
Je vous redonne la parole tout à l'heure, Vivian, Étienne Vivian Kalogi, vous êtes politologue et analyste indépendant, vous êtes également chercheur en résolution pacifique des conflits. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette déclaration de Mamane Sidikou?
Oui, merci beaucoup, madame. J'en profite aussi pour saluer tous les compatriotes auditeurs de la Radio de la Paix et tous mes deux co-débatteurs de ce soir. Et surtout en rappelant aussi que, en mémoire de Nelson Mandela, je suis très content, très à l'aise pour que nous puissions échanger autour de cette question qui est très épineuse. En fait, j'en reviens directement pour dire que il faut à ce stade ici se représenter l'entendement du concept de dialogue que se représente le patron de la MONUSCO en tenant ses propos que nous venons tous de suivre. Parce que l'entendement qui doit se donner du dialogue, nous devons aussi d'abord nous conférer à ce concept de dialogue et négociation. Dialogue signifie entretien entre deux personnes ou discussion entre deux groupes. Négociation, effectivement, c'est une discussion, mais pour parvenir à un accord. Et lorsque l'on parle d'un dialogue, que le patron de l'UNESCO se représente-t-il une formule d'un forum à l'image de ce que nous avons vécu comme les concertations nationales, où il y avait tout le monde qui devait participer? Hein, tout le monde, quand je dis bien tout le monde, même les moins concernés pour la décrispation de la situation actuelle, et quand il souligne que ce dialogue doit être inclusif, encore faut-il tenir compte de cet aspect de l'inclusivité, parce qu'au risque que nous nous retrouvons encore dans les négociations du genre « Sans City bis », hein, pour tout simplement enclencher déjà ou soutenir déjà un processus qui a été enclenché depuis 2006. Parce que c'est depuis 2006 que nous avons déjà enclenché le processus de la démocratisation par les élections. Le processus électoral a été déjà enclenché. Et de 2011, et cela devait se poursuivre normalement en 2016. C'est pourquoi à ce stade-là, je me demande quel est l'entendement que se donne le patron de la MONUSCO autour de ces deux aspects des choses. Mais qu'à cela ne tienne, parce qu'il faut ici, moi, de par mon analyse, je comprends que cela doit se réaliser autour de ce que nous appelons, parce qu'il faut appeler chaque chat par son nom, que c'est nécessairement une négociation qui doit être ici en perspective envisagée. Et j'envisage ces négociations entre l'opposition et la majorité au pouvoir. Si du reste on pouvait associer quelques membres de la société civile pour être témoins de l'accord qui devait sortir de ces négociations, là on quittera la formule du dialogue pour ne pas encore s'attarder
sur des histoires où on doit amener tout le monde, chercher une formule d'une majorité numérique, que ce soit par consensus ou par élection, qu'on arrive à sortir de là des résolutions qui pourront s'imposer par la suite, tout en violant la constitution qui est la loi qui nous régit, parce que le peuple et ceux qui le dirigent sont liés par un contrat social qui est la constitution qui doit nécessairement être respectée.
Et donc, voilà pourquoi j'ai passé.
Voilà pourquoi j'ai tapé le mot sur la définition de ces concepts-là que nous lançons fort, parce que c'est devenu un lieu commun, surtout si nous entendons parler du dialogue, mais pour quel fait? Parce que dialogue est une discussion qui nécessairement ne se finit pas, ne se termine pas par un accord. Comme nous discutons là ensemble avec mes co-débatteurs, il ne va pas sortir de ces échanges ici un accord. Mais tandis que négociation sous-entend qu'après discussion, il y a un accord qui doit sortir. Mais cet accord-là, c'est pourquoi? C'est pour violer la Constitution ou c'est pour respecter la Constitution? Parce que nous sommes tenus à comprendre aussi les difficultés techniques qui se montrent pour la tenue exacte des élections cette année. Voilà sur cet aspect des choses que je voulais déjà ici lancer. Ces débats.
Alors, selon le patron de la MONUSCO, ce dialogue permettrait de désamorcer les tensions actuelles, surmonter l'impasse politique et même prévenir la violence.
Oui, certainement. Et le dialogue dont il parle, si c'est dans la conception des négociations, cela pourrait décrisper la situation actuelle. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une situation de violence qui peut s'avérer est une situation très, très dangereuse par rapport à une situation de violence latente. Parce qu'il faut se le dire, lorsque la Constitution est violée, lorsque le pacte républicain est violé, c'est une violation latente. C'est une violation latente de la situation politique d'un État. Et s'il faut ici s'empresser pour que les politiques s'accordent afin qu'on trouve une solution, effectivement, il faut ici souligner un certain nombre de choses à respecter.
Merci. Terminez votre phrase.
Oui, je disais que nous sommes liés aux institutions actuelles par un contrat social. Et ce contrat social est défendu loi sur loi par la loi des lois qui est la Constitution. S'il faut ici maintenant décrisper cette situation par des négociations, il faut rentrer dans la formule réelle de la tenue des négociations. Il ne faut pas ici nous entraîner dans une histoire folklorique où nous allons encore chercher un forum, intégrer les différents acteurs sociaux,
merci,
les chefs coutumiers, les représentants des ONG et les partis politiques, les opposants à la majorité.
Merci, M. Kalogi. André, à la tour, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema.
Je suis Dexon Hassan Itamango depuis Kalima, la cité minière dans la province du Maniema. Je pense que Maman Sidipo, le chef de la MONUSCO, a pleinement raison du fait que la politique actuelle a besoin de l'inclusivité de tous. S'approprier toute une nation comme le fait la majorité présidentielle n'arrange rien. Elle devra comprendre que les autres existent. Quant à la tenue des élections, je suis déçu qu'elles ne se tiennent pas en décembre. Avec un tel comportement, nous sommes en train de rater le rendez-vous d'être parmi les nations qui appliquent la démocratie en Afrique.
Monsieur Atundu, comment vous répondez à Sani de Kalima qui pense qu'il dit qu'il est très déçu du fait qu'on n'aurait pas les élections risquent de ne pas avoir lieu en décembre. La RDC rate le rendez-vous d'être parmi les nations qui appliquent la démocratie en Afrique.
Nous appliquons la démocratie. Un retard, ce n'est pas une suspension de la démocratie. Le dialogue est convoqué justement pour permettre à notre système démocratique de passer le cap du retard dû à l'élection. Ça, c'est important. J'ai entendu la majorité ignorer les autres. Non. La majorité, chaque fois qu'un responsable s'exprime, j'entends le président de la République, le secrétaire général ou le porte-parole, ils appellent toujours la partie radicalisée de notre opposition qui refuse contre tout entendement d'allier le bateau du dialogue, ils leur tend la main. Et donc, un dialogue n'a pas de sens si tout le monde ne participe pas, comme le dit l'ordonnance du chef de l'État. Le dialogue est inclusif, mais malheureusement, il n'est pas obligatoire. L'inclusivité. Alors, tout à l'heure, Monsieur Kalonji fait un développement sur le concept dialogue, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Le concept ne fait pas problème. Parce que le dialogue, c'est un mécanisme de régulation de la vie sociale. N'est-ce pas ? C'est un échange interactif en vue d'aboutir à cheminer ensemble. Ce qui est important, c'est l'objet du dialogue qui est précisé. C'est le processus électoral. La finalité du dialogue qui est de prévenir les violences et surtout d'éviter une période post-électorale violente qu'on pourrait même qualifier...
Et pas le respect de la Constitution ?
Mais bien entendu. Mais bien entendu.
Oui, puisque vous dites que la finalité du dialogue, c'est prévenir la violence.
Mais bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi nous nous réunissons ? Parce que nous pensons que si nous continuons ainsi, dans ce dilemme, impossibilité d'organiser les élections pour des raisons techniques, nécessité de respecter les délais constitutionnels pour des raisons de contrat social, eh bien, c'est là où l'acteur politique, la classe politique, doit intervenir pour lever une notion. Je crois avoir entendu de la part de responsables de la CENI dire, eh bien, si la classe politique estime qu'il faut aller aux élections avec ce fichier inexistant, eh bien, on pourrait y aller. Mais c'est une grande responsabilité. L'élection n'est pas un objectif en soi. Ce qui est un objectif, c'est l'inculturation des pratiques démocratiques. C'est-à-dire qu'il passe par la tolérance. Je suis heureux que ce soit une journée consacrée à Mandela. Quelle est la leçon essentielle qu'il nous donne dans la vie ? C'est le dialogue. Le dialogue, c'est la considération de l'autre. Le dialogue, c'est l'absence d'une arrogance outrancière, alors que chacun doit donner une part de soi-même.
Mais entre-temps, Maman, le patron de la MONUSCO estime qu'il faudra respecter le délai constitutionnel.
Bien
c'est
entendu.
Vrai qu'il fallait au dialogue, mais respecter la constitution congolaise.
Je n'ai pas entendu l'ordonnance du chef de l'État dire ou disposer que le dialogue, la constitution ne sera pas respectée. Au contraire, chaque fois que la majorité a l'occasion, il explicite à l'intention de l'opinion que le dialogue n'est pas une association momentanée contre la Constitution ou pour suspendre la démocratie. Le dialogue est un espace convoqué et organisé aujourd'hui par le chef de l'État pour que nous puissions débattre d'un problème qui risque de mettre notre système démocratique en panne. Il s'agit du processus électoral. Et cela est important. Aujourd'hui, tous les partenaires nationaux et internationaux sont d'accord qu'il faut aller au dialogue. Alors, soyons responsables d'aller au dialogue.
Mais le gouvernement avait quand même tout le temps de pouvoir préparer les élections de 2016.
Ma chère, la politique, c'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas ce qui est important pour le peuple congolais aujourd'hui. Chacun est assez intelligent pour montrer que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de ça que le peuple a besoin. Aujourd'hui, le peuple a besoin que la classe politique lève une option qui leur enlève l'hypothèque d'une période post-électorale violente ou tout simplement d'une période préélectorale violente.
Merci, Monsieur Atundu, Jolino Makelele, on va prendre pour vous. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Justin Vigneni, depuis Goma, au Nord Kivu. Le dialogue, depuis un certain moment, a eu un caractère impératif par le fait que même le camp de l'opposition a compris qu'il n'est plus possible que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Cependant, ce dialogue ne devrait pas freiner le processus électoral, mais plutôt il devrait traiter des grandes questions que les institutions de la République n'ont pas réussi à résoudre, à savoir le sort du président actuel après son mandat, l'élaboration du nouveau calendrier électoral indiscutable et l'instauration de mécanismes d'avenir qui permettront de ne plus se trouver dans cette situation de crise aux prochaines élections.
Réaction.
Bon, ça me fait un peu sourire cette appréciation, mais disons déjà que quand on dit le dialogue a un caractère impératif, Non, je répondrai, je réagirai pratiquement de la même façon que l'ambassadeur Atundu, puisque nous avons tous appris la même chose, si je suis au moins dans ces domaines-là, c'est que c'est une nécessité de la vie sociale que de se parler. Et c'est pas pour rien, je le répète, nous, c'est depuis le mot dialogue, il est sorti de la bouche des gens de l'opposition après les élections, c'est pas de la majorité. Nous, déjà à l'époque, en 2012, je rappelle, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi à Addis Abeba. De même, Vital Kamerhe a fait des plans de sortie des crises en proposant un dialogue. Là, il faut quand même le rappeler. Le président de la République n'a pas voulu de ça. À la place, il a fait ses fameuses concertations. Et une année après, nous savons ce qu'il en est advenu. C'est-à-dire, ça a accouché d'une souris. Et monsieur vient de nous dire que le dialogue doit traiter de tous les problèmes. Non, nous avons une constitution qui donne à chacune des institutions ses prérogatives. Prenons l'ordonnance du président de la République. Lorsqu'il dit qu'il faut parler du financement des élections, mais écoutez, bon sang, nous sommes où là? C'est pas le pouvoir exécutif qui est à la manette en ce qui concerne le financement des élections? C'est pas l'opposition? Pourquoi mêler l'opposition à ses propres turpitudes? Depuis 2012, l'exercice budgétaire 2012, 2013, 2014, ils ont mis des miettes à la disposition de la CENI alors que le peuple, à travers le Parlement, avait déjà autorisé de mettre l'argent. Et je dois vous dire que si tout ce que le peuple, à travers le Parlement, a décidé de donner à la CENI à travers le gouvernement, était mis à la disposition de la CENI, c'est à peu près 1 milliard. Parce que si vous comptez bien, dans ces budgets, il y avait au moins, au minimum, 250 millions à mettre chaque année à chaque exercice budgétaire. De sorte qu'au bout de 4 ans, nous aurions eu 1 milliard. C'est-à-dire exactement ce que la CENI demande. Donc la responsabilité n'est pas de... Parce que s'il n'y avait que ça, on pouvait nous invoquer je ne sais quoi, mais quand vous prenez en comparaison le budget de la présidence de la République et de la primature avec des augmentations exponentielles, ça réduit à néant tout argument selon lequel nous aurions eu la guerre, nous aurions eu telle crise. Non. Et au surplus, nous avons les matières premières qui étaient à la hausse. Mais, et surtout, il faut quand même dire que ce blocage, je le rappelle, il vient de cette majorité parce que c'est dans son intention.
La majorité qui vous accuse, présente. Vos positions
mais
d'avoir bloqué.
Mais qu'on nous dise, parce que je viens de faire la démonstration ici, qu'après les élections, c'est nous qui sommes allés sur la voie du dialogue. Nous, à l'UNC, nous avons même créé une coalition pour le vrai dialogue. Ce vrai dialogue, c'est-à-dire conforme aux instruments juridiques internationaux tels qu'il a. La question qui se pose, que M. Alain Atundu nous dise aujourd'hui, que la majorité présidentielle est d'accord d'aller au dialogue conformément à la résolution 2277. Qu'il fasse un scoop là-dessous. Là-dessus, ça veut dire que les élections se fassent et dans les délais constitutionnels et en respectant la Constitution. Et alors, à partir de
avec
là...
Avec tous les problèmes techniques que connaît la CENI, vous pensez que c'est faisable vraiment dans les délais constitutionnels?
Madame,
vous pensez qu'on aura des élections au mois de novembre?
Nous avons déjà eu, aussi bien à l'étranger, des expériences où on a organisé des élections dans des délais assez courts après leur annonce. On a connu ça. Même les élections passées en 2006, en 2011, on a fait l'enrôlement, puis on a fait des élections en très peu de temps. En fait, il faut quand même que ce soit clair. Ce gouvernement, à partir du moment où il n'a pas voulu mettre l'argent, les moyens à la disposition de la CENI, a tout fait pour bloquer la CENI et donc rendre inéluctable une discussion qui aboutirait à une transition à je ne sais quoi. Mais surtout, madame, il faut quand même le rappeler.
Rapidement.
Oui. Ce gouvernement, la CENI, lorsqu'elle a produit son dernier calendrier global, si j'ose dire, mais parmi les 23 contraintes listées par la CENI, il y avait près de 17 qui relevaient du gouvernement. Combien le gouvernement a-t-il exécuté? Il n'a exécuté que près de 4. C'est encore de la mauvaise foi. Et même les élections provinciales,
merci.
Il n'a pas pu les organiser en donnant les moyens.
Merci,
l'élection du gouverneur, la même chose.
Etienne Vivien Kalongi, on va prendre aussi pour vous cette réaction. Qui nous vient de Kisangani?
Petit Bossimo depuis Kisangani. Alors, le dialogue est bon, mais la telle voie des sorties de la PAC, qui vient de lutter à l'horizon, n'est pas une mauvaise chose. La mission maman, c'est dit que les prospects ne nécessitent pas de connaître les mal pour ne pas les commettre comme les pensées sous place. On peut toutefois aller au dialogue, mais si la mauvaise volonté est toujours là laissée sur les politiques congolais concernées, le pays ne sortira jamais de cette étape. À mon avis, c'est question de la volonté politique, que ce soit du côté de la majorité et de l'opposition. S'ils mettent d'abord tous leurs intérêts individuels du côté, afin d'éviter ces dangers que tout Congolais a peur de voir arriver. La question que les chefs de la Monusco doit se poser et vérifier comment trouver la solution positive est celle de savoir est-ce que les deux parties accepteront toutes une proposition de sortie de l'EPAGE qui sera co-constitutionnelle, c'est-à-dire faire qu'il y ait des élections dans les délais prévus par la Constitution. Sinon, tout sera nul et sans effet.
Monsieur Kialongi, vous avez suivi cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani?
Certainement, le compatriote a raison sur toute la ligne. C'est une question de volonté politique et de la bonne foi de toutes les parties qui composent notre classe politique, l'opposition et la majorité. Il a certainement raison sur toute la ligne. Mais ce que je voulais aussi épingler là-dessus, c'est que aujourd'hui, on se cache derrière le dialogue tout en cachant les idées que nous avons derrière la tête pour ce qui est de la conservation du pouvoir pour la majorité. Parce que il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise que le dialogue réellement qui doit s'instaurer, et il ne doit pas ici s'instaurer dans l'esprit de violer la Constitution. Le dialogue doit être permanent pour décrisper, n'est-ce pas, la situation dans l'espace politique. Ça, c'est réel. Mais lorsque on entrevoit un forum dialogue auquel on doit attribuer tous les pouvoirs possibles pour qu'au sorti de là, on peut même arriver à violer certaines dispositions de la Constitution. Nous ne trouvons pas ici une volonté manifeste de chercher la stabilité du Congo en long terme. C'est pourquoi là-dessus, je m'attelle sur ce que l'ambassadeur vient de dire ici. Quand je commençais par la prise en compte de la définition des différents concepts sur le dialogue et les négociations, c'est sur base des objectifs poursuivis dans ces structures-là. Ici, je trouve qu'il y a une volonté manifeste d'aller au dialogue qui est criée au travers des médias, mais il y a aussi une volonté manifeste de réduire les gens au silence. On ne peut pas toutefois souhaiter qu'il y ait la tenue du dialogue, séparer entre les patriotes, mais tout en empêchant aux autres de s'exprimer.
Lorsqu'il y a été vous faites allusion à quoi pays... Monsieur Kalou, je vous faites allusion à quoi lorsque vous dites on appelle les gens au dialogue et de l'autre côté on empêche aux gens de parler.
Là j'entends sur l'arrestation arbitraire des prisonniers d'opinion. Je vois ici nos amis de Filimbi, je vois ici nos amis de Lucha, nous voyons ici nos amis de l'opposition, qui s'ils veulent manifester, s'ils veulent peut-être réclamer le respect de l'obligation constitutionnelle, sont arrêtés. Et je vois tout cela qui se démontre. C'est un climat qui ne permet pas à croire à un lendemain meilleur au sorti du dialogue. Parce que lorsqu'on veut qu'il y ait dialogue, on doit réellement avoir de la retenue pour comprendre que c'est la démocratie qui doit triompher. Si nous ne sommes pas capables de tenir les élections dans les délais constitutionnels et que nous voulons convier nos compatriotes à un arrangement, nous devons aussi ici manifester, développer une attitude comportementale qui laisse de l'espoir dans le chef de l'interlocuteur que vous appelez pour négocier ou dialoguer. Mais si vous réprimez ceux qui veulent réellement s'exprimer librement, parce que notre constitution nous donne ce droit-là de s'exprimer. Notre constitution nous donne ce droit-là de réclamer le respect de ces dispositions. Mais si le pouvoir s'attelle toujours à restreindre les libertés des personnes, nous ne voyons pas en quoi le pouvoir est sincère dans la tenue d'un dialogue qui pourra découcher sur des résolutions qui pourront nous amener à une stabilité au Congo. C'est pourquoi je dis que la formule du dialogue telle qu'elle est envisagée de tous les partis ne nous rassure en rien. Parce qu'il suffit ici d'aller au dialogue et de sortir des résolutions qui vont nous amener à la fin des élections en 2017. Vous verrez encore un scénario qui va se représenter.
Merci.
Sur lequel la Constitution étant largement violée, nous devons revoir certaines dispositions. Nous devons maintenant aller au référendum populaire.
Merci, Monsieur Kalongi.
Le bon de mandat, et ça nous amène à quoi?
Merci, Monsieur Kalongi. Andra Latundu, Monsieur Makelele, Jolino Makelele, a posé une question. Est-ce que la MPE peut nous dire aujourd'hui si elle va accepter, si elle est capable d'aller à ces dialogues tout en acceptant de respecter la tenue des élections dans les délais constitutionnels?
Respecter la Constitution et les délais constitutionnels.
Voilà, c'est pas différent de ce que j'ai dit.
Mais, j'allais dire dans un langage enfantin, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi. Parce que la majorité présidentielle le répète sur tous les toits et sur tous les tons. Le dialogue a pour objet le processus électoral, non pas le sort du président Kabila, ni le sort de la Constitution. En tout état de cause, le dialogue n'est pas une association des comploteurs contre les intérêts de notre peuple ou contre la Constitution.
Donc, processus électoral, organiser les élections dans les délais.
C'est ça, parce qu'il y a des problèmes. Il y a un problème objectif. C'est concilier l'exigence constitutionnelle du respect de délai et les impératifs pour la CENI de réaliser des élections crédibles sur base des données fiables, qui aujourd'hui n'existent pas. Et ça, c'est le rôle de l'homme politique, de lever les options. Il ne faut pas fuir ses responsabilités. Et aujourd'hui, pour tout esprit normalement constitué, toutes les conditions sont réunies pour le dialogue. Les petites références futiles de genre un peu égoïste quant à l'initiative de tel ou tel autre, ce n'est plus de mise aujourd'hui. Nous attendons de leur part un sursaut patriotique et nationaliste pour sauvegarder le fonctionnement normal de notre démocratie et permettre à notre État de continuer son élan vers l'émergence.
Alors le chef de l'État appelle au dialogue. De l'autre côté, comme l'a dit M. Kalonji, on assiste à des arrestations. Est-ce que ça favorise vraiment un climat pour que les gens acceptent de venir dialoguer?
Un État de droit, comme nous prétendons l'être, doit respecter le fondement ontologique de la démocratie, c'est-à-dire 1. L'ordre public, 2. La moralité, le respect des institutions et l'ouverture d'esprit. Donc aujourd'hui, le dialogue n'est pas là pour suspendre la séparation du pouvoir. La justice est la justice, l'exécutif c'est l'exécutif. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Il prend une initiative pour débloquer la situation qui risque d'être, qui est un risque majeur pour le fonctionnement de l'État. Eh bien, on veut profiter de cette situation de force ou de cause majeure pour essayer d'obtenir le blanchiment de quelques citoyens en mal avec la justice.
Pas que si on ne respecte pas le délai constitutionnel, ça risque de poser encore des problèmes, M. Tundu, ça sera votre conclusion.
Mais voilà pourquoi le président a convoqué ce dialogue. Je lui ai dit qu'en état de droit doit tenir compte de la réalité des choses. Et le dialogue dont tout le monde parle, c'est celui convoqué par le chef de l'État et qui doit ainsi exécuter. Malheureusement, au centre de cette tourmente démocratique, il y a deux choses.
Monsieur,
contre Kabila.
Je suis désolé de vous interrompre. On va passer la parole à Monsieur Jolino Makelele pour votre conclusion.
Oui, je dirais que certains propos pourraient s'assimiler à du brigandisme, à une sorte de comportement brigand sur le plan intellectuel. Je ne peux pas concevoir, moi, et le peuple ne le conçoit pas, qu'on puisse aller au dialogue si tel est le cas. Mais pourquoi a-t-on traîné à ce point-là depuis l'époque 2012 que nous avons demandé ces dialogues conformes aux instruments juridiques? Pourquoi seulement maintenant, sinon qu'il y a des arrière-pensées? Et ces arrière-pensées ont commencé, madame. Rappelez-vous les concertations. La fin des concertations, le président qui dit il faut envisager une balance. Les finances publiques, tout ça avec la guerre et les processus électoraux. La même chose.
Merci.
Non, c'est-à-dire que nous sommes d'accord sur une chose, madame. Nous voulons qu'il y ait un dialogue conforme à la résolution 2277 et donc pas conforme aux idées de la majorité présidentielle.
Merci, Monsieur Kalonji. Un mot pour conclure.
Un mot pour conclure. Il n'y a que le chef de l'État qui peut décrisper cette situation pour que nous puissions nécessairement atteindre ce que nous avons besoin, hein, le processus dont il a relancé, le processus électoral, et que c'est lui-même qui peut aussi donner du tonus sur le respect du délai constitutionnel.
Merci, Monsieur Kalonji. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme pour la fréquence de la paix.